Jessica Vial.
Au moins 22 personnes ont été tuées et plus de 120 autres blessées dans des tirs israéliens aujourd'hui dans le sud de la bande de Gaza. Un nouveau bilan de la défense civile de l'enclave palestinienne l'indique. Ces tirs visaient des personnes qui se dirigeaient vers un centre américain de distribution d'aide alimentaire. La Russie traite comme des actes de terrorisme l'effondrement de deux ponts cette nuit dans des régions du pays bordant l'Ukraine. Le comité d'enquête évoque des explosions. C'est ce que rapportent aujourd'hui les médias d'État russes. L'écroulement du premier ouvrage a été provoqué par le déraillement d'un train. L'écroulement du premier ouvrage a provoqué le déraillement d'un train et a fait au moins 7 personnes et 66 blessés. La victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions a donné lieu à des scènes de liesse à Paris et dans d'autres villes de France, mais aussi à de nombreux débordements selon le ministère de l'Intérieur qui dénombre plus de 550 interpellations. Deux personnes sont décédées cette nuit lors des célébrations. Un homme de 17 ans a été victime de coups de couteau à Dax et à Paris, une personne à scooter a été percutée par une voiture. Elle a succombé à ses blessures. À Grenoble, les membres d'une famille ont été fauchés par un véhicule. Deux personnes sont grièvement blessées. Les bureaux de vote ont ouvert en Pologne pour le second tour de l'élection présidentielle. Le scrutin oppose le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, centriste et pro-européen, à Karol Nawrocki, soutenu par l'opposition nationaliste. Le président polonais dispose d'un droit de veto sur les lois. Une victoire du candidat conservateur pourrait donc mener à des blocages de la coalition centriste au pouvoir. La montagne reste en mouvement dans le Lütschental, 4 jours après la rupture du glacier du Birch qui a recouvert le village de Blatten. Les éboulements au Petit Nestorn se poursuivent, selon le chef de l'information de l'état-major régional de conduite, Matthias Ebner. L'intervention de spécialistes avec des machines n'est pas encore possible dans la zone. Il est donc encore trop tôt pour lever l'alerte, a averti la commune. Un nid de martinet sur 3 est contaminé par des déchets plastiques et pourtant ces oiseaux ne touchent presque jamais le sol. C'est le constat de la première étude ayant examiné une interaction directe entre le plastique en suspension dans l'air et une espèce animale. Elle a été menée par des scientifiques espagnols et publiée dans la revue Science of the Total Environment. La Coupe de Suisse de football vivra la finale la plus déséquilibrée de son histoire cet après-midi à Berne. Le FC Bâle, champion en titre, affronte le FC Bienne, la première équipe de 3e division à se hisser à ce stade de la compétition. Le club zélandais espère toutefois créer la surprise. Une rencontre à suivre sur RTS2 dès 13h45. Du soleil au programme dans le ciel de ce dimanche, malgré des voiles de nuages élevés, le ciel se fera plus chargé en seconde partie de journée et des averses ou orages sont possibles. Température en pleine, 28 degrés au maximum. Temps plus nuageux demain lundi et 22 degrés au maximum.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Infotrafic RTS.
Sur l'axe Chiasso-Lucerne, des colonnes s'étendent sur 6 km entre Quinto et l'entrée sud du tunnel du Gotthard, ce qui représente une heure d'attente en direction de Lucerne. Comme parcours alternatif pour rejoindre la Suisse romande depuis le sud des Alpes, les axes du Simplon ou du Grand Saint-Bernard sont recommandés. Sur la ligne de ferroutage de la Fourca, il faut patienter une demi-heure à la gare de chargement d'Oberwald.
Il est mondialement connu et reste pourtant un mystère.
He is the most famous artist in any point of art history.
Jusqu'au 29 juin à Beaulieu, Lausanne, plongez dans l'univers de l'un des génies de l'art urbain avec The Mystery of Banksy, A Genius Mind. Plus de 200 œuvres, graffitis, photos, sculptures et vidéos pour tout savoir sur Banksy, artiste peintre et graffeur né à Bristol. Véritable icône artistique. Plus d'informations sur mystery-banksy.ch.
Nobody has been that famous and yet invisible.
Retrouvez l'actualité culturelle dans Vertigo, du lundi au vendredi à 17h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Les beaux parleurs. Avec Jonas Schneider.
Bonjour et bienvenue dans ces beaux parleurs du 1er juin, fête des pères et journée mondiale des parents. Avec ce dimanche, autour de notre table familiale, l'entrepreneuse sociale Sylvie Makela, la journaliste Anna Lietti et l'homme d'affaires François-Henri Benamias. C'est notre enfant rebelle, l'humoriste Robin Chessé qui ouvrira cette émission. Et voici les sujets sur lesquels nous éviterons tout paternalisme. Même CNN a appris à prononcer cette semaine Birch et Blatten. Le glacier du Birch s'est effondré, ensevelissant une grande grande partie du village valaisan de Blatten. L'évacuation préventive a évité de nombreux morts, mais pas le choc et les traumatismes. Ce drame, annoncé par les géologues depuis les années 90, pose une question brutale. Face à l'instabilité croissante liée au climat, faut-il abandonner certaines zones de notre pays? Ou comment adapter notre pays à ces nouvelles réalités alors que même la montagne n'est plus éternelle? Après la série des Martines à la plage où Martine prend l'avion, nous avons le droit ces derniers jours au Macron. Macron prend de la coke, Macron se fait gifler dans le jet privé par Brigitte et d'autres rumeurs en tout genre jusque sur son influence supposée sur l'élection du pape. Les théories du complot sont donc partout, mais le gouvernement français semble aussi profiter de cela pour invoquer la désinformation de manière presque systématique et arrangeante. Alors Macron est-il victime de ces fake news ou profite-t-il du flou créé par tout le bullshit autour de sa personne? Vous entendrez l'avis de nos beaux parleurs. Enfin, dès juillet, les étiquettes des produits que vous achèterez devront signaler les pratiques douloureuses infligées aux animaux. Une victoire éthique, pendant que Nestlé, par exemple, annonce retirer le Nutri-Score de ces mêmes étiquettes. Le bien-être animal devient central, la transparence sur votre santé, elle, recule. Mais de toute façon, qui lit encore les étiquettes? Juste après-midi, notre invité sera Michel Santi. Cet économiste franco-suisse vient de publier Une jeunesse levantine, un livre sur ses jeunes années au Moyen-Orient. Ancien conseiller des banques centrales, il est aussi l'auteur d'un livre très critique sur la Banque nationale suisse. Il viendra notamment tenter de nous aider à comprendre pourquoi la BNS pourrait opter à nouveau pour des taux négatifs, ce qui réjouira les propriétaires et inquiétera les futurs retraités.
Les beaux parleurs sur RTS Première.
Bonjour à toutes et tous. Bonjour François-Henri Benhamias.
Bonjour.
Bonjour Anna Lietti.
Bonjour.
Bonjour Sylvie Makela.
Bonjour Jonas.
Et bonjour Robin Chessé.
C'est tellement chou aujourd'hui.
C'est vrai?
C'est chou. Oh,
attendez la suite.
Bonjour,
attendez la suite.
Bonjour.
Oui, on s'insulte jamais la première minute, Robin.
Ah, c'est ça. Moi, j'attends la suite.
Oui.
Alors, bonjour. Moi, j'ai une question aujourd'hui. Je me demande, qui sommes-nous?
Bonne question.
Ouais, qu'est-ce qu'on est devenu? Est-ce qu'on est tellement des consommateurs de tout que les événements, ils font finalement que nous effleurer? Je me pose la question parce que on peut se demander ça quand on voit comme passe dans nos vies la catastrophe de Blatten. Alors oui, on a tous été impressionnés par les images, touchés par la situation, il y a un élan de solidarité, c'est super. Mais on sait qu'on va vite reprendre nos petites vies. C'est une actu, hein, comme la victoire de Paris en Champions League hier ou le savon commercialisé par avec l'eau du bain de Sidney Sweeney. Ouais, je le reçois autour du 22 juin, le mien. Et pourtant, c'est dingue. Je veux dire, c'est chez nous. C'est chez nous. La portée symbolique de l'événement est énorme. C'est une montagne qui s'est effondrée sur un village. Je veux dire, je pense qu'on devrait être obsédé par ça. Ça devrait pas être juste un gros titre des journaux. Et non, bah, c'est comme pour Gaza et pour l'Ukraine ou tous les drames à travers la planète. On passe vite à autre chose. À nos petits drames du quotidien. On est concerné un temps, mais ça donne vite. Ah, ça me touche ce qui se passe, la souffrance de ces gens. Ah, merde, j'ai oublié de changer les pneus d'hiver. Ça, c'est à quel point il faut que ce soit sous notre nez pour qu'on se dise qu'il y a un problème. On fonctionne vraiment selon l'adage. Tant que c'est pas moi, c'est du fait divers. En pensant à ces habitants de Blatten qui ont tout perdu, mais qu'on va vite oublier, alors que ils vont pas oublier monstre vite, je pense. On vit dans un tel flux d'informations constant qu'on s'accommode de tout. Même vous, Jonas, mais je veux pas vous mettre en cause, mais le titre du premier débat du jour, c'est « Blatten, village englouti, faut-il interdire d'habiter certaines zones et adapter notre pays ?» Voilà, la question de Jonas, c'est ça. Est-ce qu'on va pas simplement aller vivre ailleurs, puis laisser tout le merdier, hein? C'est sacré Jonas. Moi, j'aimerais pas passer après vous dans les toilettes d'un train, en tout cas. C'est après moi le déluge. Non, mais je suis d'accord, on va bien devoir s'adapter au monde qui change. Mais il y a quand même une sacrée nuance entre s'adapter et s'accommoder. Imaginons que la même chose arrive au cervin, hein, qu'il y a une partie du cervin qui s'effondre, puis qu'il n'ait plus la même forme. Mais je serais pas surpris que la réaction majoritaire se soit assez vite. Ah mince, faut qu'on modifie tous ces petits globes qui font de la neige quand on les secoue, sinon les touristes ils vont plus les acheter. Ça qu'on se dirait. Il y en a qui s'arrangent aussi avec les faits, notamment celles et ceux qui préfèrent ne pas entraver le libre marché avec des considérations climatiques. Puis ils sont contents, parce qu'il y a certains scientifiques qui mettent en avant que la catastrophe de Blatten n'est pas forcément liée à un effet direct du dérèglement climatique. Même s'ils concèdent quand même à chaque fois que ça joue un petit peu. Mais est-ce que c'est vraiment cette question le problème? Si par exemple toute ma vie, je fume 3 paquets de clopes par jour et je descends 2 bouteilles de rosé au réveil tous les matins, mais que je meurs shooté par une voiture, hein, vous aurez beau me dire, bah c'est pas sa consommation de clopes et d'alcool qui l'a tué. Mais ça me fera une belle jambe. Puis ça voudra quand même pas dire que je faisais juste. voyez. Et accessoirement, peut-être que si j'étais pas à moitié pété toute la journée et à essayer de m'allumer une clope dans la rue, j'aurais peut-être été plus attentif en traversant la route. C'est pas parce que le drame de Blatton n'est pas 100% dû au réchauffement qu'il y a pas quand même un problème. Et c'est cette manière de s'accommoder de la réalité qui m'a fait penser à un autre phénomène. À Los Angeles, c'est une petite histoire.
Allez-y.
Allez, petite histoire. À Los Angeles, depuis quelques années, quand ils étaient dans des périodes de sécheresse, les gens, ils arrosaient plus leurs pelouses de jardin, et du coup, les jardins, ils devenaient tout jaunes. Et pour accepter ça, on a créé le slogan « Gold is the new green ». C'est pas jaune deck, c'est or. C'est le nouveau vert. Les intentions étaient pas mauvaises dans l'absolu. Mais ça veut dire que le plus important, c'est l'image qu'on renvoie. Nos questionnements prioritaires, c'est ça. Est-ce que la fin du monde nous permettra tout de même d'être instagrammable? Gold is the new green. C'est sûr que comme ça, on peut tout transformer en cool. Genre, vinaigre is the new wine. Lausanne Sport is the new Real Madrid. Chamaïri is the new prendre une grosse tarte dans la gueule. C'est sûr qu'on peut bien s'accommoder de ce réchauffement climatique. On dira aux gens, comment vous luttez au quotidien contre le réchauffement global? Bah, je mets la clim plus fort. Parce que clim is the new, pas si terrible ce climat finalement. Et ce style de com, on le fait aussi chez nous. Je veux dire, quand on voit que, par exemple, en Suisse, un quart de nos réductions de CO2 sont réalisées en payant d'autres pays pour planter des arbres en Afrique ou soutenir un parc éolien en Amérique du Sud, parce que payer les autres pour compenser nos excès is the new, prendre nos responsabilités. C'est fou, c'est même pire encore. Parce qu'il faut bien imaginer qu'en plus, cette catastrophe à Blatton, au-delà que certains commencent vite pas y penser, il y en a qui y pensent, mais en y voyant une opportunité. C'est sûr qu'à quelque part, il y a un promoteur immobilier qui a dû se dire ce nouveau lac à Blatton, il y a besoin de faire une belle marina avec des grandes villas. C'est sûr, c'est le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est notre faute également. Parce qu'à force de pas être concerné, on laisse la place à d'autres pour faire ce qu'ils veulent. Et on va sans doute pas changer le monde tout seul, mais accorder de l'importance aux choses, ce serait déjà faire un petit pas. Parce que il y a pas mal de chances que plus les années avancent, plus on vivra dans un monde où catastrophe naturelle is the new normal.
Merci Robin Jessé.
Les beaux parleurs.
Il est en forme.
11h, midi et demi. Sur RTS Première.
Sylvie Makela voulait carrément vous applaudir.
Ah
vous
oui, avez non, non, mais... Ouais.
Je vous aime beaucoup aussi.
Bien, vous échangerez les numéros en antenne. Nous commençons avec le glacier du Birch et la catastrophe de Blatten. Les caméras du monde entier sont toujours braquées sur ce village valaisan et sur la catastrophe de Blatten qui était déjà annoncée dans les années 90. En 1994, en octobre, l'ATS titrait « Le glacier de Birch tel une épée de Damoclès ». Alors la question c'est comment est-ce qu'on va adapter notre pays à ces risques naturels, à la question du réchauffement climatique et notamment est-ce qu'il faut continuer d'habiter dans ces zones particulièrement dangereuses. Anna Lietti.
Vous avez remarqué, on est dans la chanson du vieux chalet, presque littéralement. Il y avait un vieux chalet sur la montagne, là-haut sur la montagne. La neige et les rochers se sont unis pour l'arracher et Jean, d'un cœur vaillant, l'a reconstruit plus beau qu'avant.
Ah oui.
Et donc le président de la commune de Blatton, à quelques heures après la catastrophe, a dit « on va reconstruire
oui. ».
Et il a aussi dit « nous n'avons pas perdu nos cœurs vaillants ». Donc il est le porte-parole des cœurs vaillants, des montagnards, qui veulent reconstruire au même endroit. Donc c'est une vieille histoire, la nature détruit, et l'homme reconstruit, en général, exactement au même endroit.
C'est pas la nature toute seule qui a détruit, là en l'occurrence.
C'est-à-dire ?
C'est aussi l'impact que nous les hommes avons sur le réchauffement climatique qui a contribué à ça.
Oui, oui, bah, mais l'idée de reconstruire au même endroit, c'est vrai.
C'est une, disons, c'est pas la première catastrophe. Voilà. Le rapport avec le réchauffement,
mais, côté.
Disons, il y a une vieille histoire humaine de nature qui détruit et d'homme qui reconstruit. Prenez Pompéi. Il y a 700 000 personnes qui habitent dans la zone rouge-rouge. Hein. Je parle même pas de la ville de Naples. Je parle de la zone la plus à risque sous le Vésuve. Alors, il y a toutes sortes de raisons. Une des raisons pour lesquelles l'homme reconstruit là où il y a eu une catastrophe, c'est que les épisodes sont espacés dans le temps, la mémoire se perd. Il y a aussi le fait qu'ils ont de très bonnes raisons d'être là, parce qu'ils y gagnent leur vie. Et maintenant, il y a encore le fait qu'on se dit que les moyens technologiques vont nous permettre de surveiller. Mais disons, le fait est qu'effectivement, pour le moment, on en est encore là, de se dire... le ratio, enfin, il y a un risque qui est connu, objectivement connu, mais ça se transforme pas en sentiment de danger qui amènerait les gens à modifier leur comportement.
C'est aussi parce qu'il y a un romantisme du fait d'affronter les éléments. Hein. On entend à Blatton les habitants dire on est terrassés, c'est horrible. On avait l'habitude d'affronter les éléments dans cette région, les tempêtes, les orages, etc. Mais là, la nature est plus forte. Donc il y a quand même cette idée que on peut affronter les éléments à la montagne. Oui, et que ça fait partie de notre identité d'affronter les éléments.
Voilà, et que c'est la vie, Le Valais, le Valais est une zone à risque sismique aussi, très fort risque sismique. Le Big One, le prochain Big One est annoncé d'ici la fin du siècle. Il y en aura un, magnitude 6. Et 20% seulement du parc immobilier est aux normes antisismiques. Et ben moi, j'ai jamais. Ce qui me frappe, c'est que j'ai jamais entendu un Valaisan ou une Valaisanne me dire. Je préfère habiter dans du neuf parce que ça me rassure par rapport au risque de tremblement de terre. Donc voilà, on en est pour le moment et visiblement les habitants de Blatton qui sont quand même qui devraient être les premiers peut-être à craindre les effets de ce genre de choses et donc par exemple et ça devrait être les plus climato-sensibles. Eh ben non, ils ont cette attitude là, voilà. Alors,
François Ribadamias, qu'est-ce que vous pensez de ça, adapter notre pays aux risques naturels et aux nouveaux risques naturels induits par le changement climatique?
Alors d'abord, la première chose, c'est je pense que la perte de son habitation est très proche aussi de la perte d'un enfant. Les gens qui vivent là depuis des années, et ça c'est une horreur. C'est une horreur humaine absolue. À côté de ça, de ne pas aujourd'hui se poser la bonne question de dire est-ce qu'il va falloir s'éloigner des zones à risque? Et on parle pas que de la Suisse, on parle, il y a plein d'endroits dans le monde aujourd'hui qui deviennent très dangereux. J'étais à New York il y a pas longtemps, ils sont en train de préparer des remblais monumentaux sur le East Side de Manhattan parce qu'ils savent qu'à un moment il y aura droit à des inondations monumentales. Mais on le voit partout en France, c'est les ponts qui commencent à exploser à droite et à gauche et il y a pas les moyens de pouvoir financer pas la reconstruction, mais le fait que ça tienne la route, on va au-devant de catastrophes, et à un moment, c'est bien de dire, on veut continuer, on va se réinstaller, on va faire ci, on va faire ça, mais qui va finir par payer l'addition? Parce qu'à un moment, les assurances vont avoir tellement de dossiers sur leur bureau qu'elles vont dire, mais non, c'est impossible. Et là, on fera comment? Et je pense qu'il va y avoir des contraintes d'isolation et de zone qu'il va falloir vraiment regarder en disant, si vous mettez là, vous n'aurez pas les assurances. Regardez ce qui se passe à Los Angeles après les incendies. Il y a quasiment 80% des maisons qui ne peuvent plus être assurées. Bonne chance pour aller reconstruire et se réinstaller là-bas. Donc il va falloir regarder ça de près quand même, je pense.
Sylvie Makela, comment vous pensez qu'il faut adapter notre pays?
Bon, moi déjà, si j'avais envie de répondre, d'applaudir à la chronique de Robin, c'est justement parce que je pense que le Blatton, c'est représentatif de l'état du monde en fait. Et c'est ça.
On n'est pas tous sous l'eau quand même.
On n'est pas tous sous l'eau, mais il y a quand même des scientifiques qui expliquent que le monde va à volo parce qu'il y a le réchauffement climatique, parce qu'on ne prend pas suffisamment soin de notre environnement. Et puis, dans le cas de Blatton, moi je trouve que c'est intéressant, c'est que finalement, les habitants ont cru. Ils ont évacué en 15 minutes, je crois. Les autorités ont pris une décision. Il n'y a pas eu de discussion, c'était pas on va demander une contre-enquête, on va voir si vraiment il n'y a pas du complotisme sur ce qui a été dit par les scientifiques, etc. C'est qu'à un moment donné, tout le monde a pris ce que les scientifiques ont dit au sérieux et les personnes ont pris leurs affaires. Et on a pu éviter des morts. Alors effectivement, c'est dramatique par rapport aux maisons, etc. Mais pour moi, c'est un symbole de se dire, à un moment donné, dans l'état du monde, est-ce qu'on peut pas faire la même chose? Prendre acte et prendre des mesures autoritaires pour tout le monde pour qu'on essaye de redresser la barque avant même de questionner les assurances, etc.
Alors ça, poursuivons dans le symbole, Sylvie Makela. On apprend aujourd'hui qu'en fait, la zone d'évacuation était trop petite et que l'homme qui est mort dans cet éboulement était justement en dehors de la zone d'évacuation. Si on poursuit dans la symbolique, le fait qu'on, certes, on évacue, mais une zone trop petite, ça vous parle? on réagit, mais sur une zone qui n'est pas assez grande. Oui, déjà... On sous-estime les effets de la catastrophe.
Oui, mais alors justement, on a sous-estimé les effets de la catastrophe. Donc encore là, dans la symbolique, ne sous-estimons pas les effets que nous prédisent les scientifiques avec les climato-sceptiques, etc. Ne sous-estimons pas et faisons et menons une action globale, internationale, comme il est nécessaire.
Il y a quand même un expert scientifique en avalanche l'autre jour qui a dit du calme, c'est pas comme si les montagnes s'effondraient les unes après les autres. Tous les scientifiques actuellement ne sont pas en train de dire c'est certainement l'effet.
Non mais voilà. Alors de nouveau je reprends Robin. Oui, c'est pas. Mais il y a un risque quand même énorme et arrêtons avec cette de chercher des excuses, des contre-enquêtes, etc. Le risque climatique est là.
Mais attention, faut commencer à l'affronter. Mais attention aussi que ça ne parte pas dans l'autre sens et que sous couvert de il faut qu'on prenne des précautions à droite et à gauche, ça devienne on prend des rayons de 500 km et tout d'un coup tu dois mettre dehors des centaines de milliers de personnes.
Je te parle pas de mettre dehors des gens, je te parle de vraiment prendre des mesures pour essayer d'arrêter en fait la pollution, toutes les actions qu'on mène et qui participent et qui contribuent au réchauffement climatique globalement.
Et l'autre, est-ce qu'il faudrait faire ou l'un ou l'autre? On sait que même aujourd'hui si on limitait drastiquement les émissions de CO2 et on n'est pas sur ce chemin-là, on sait que même si on faisait ça, on aurait une augmentation de la température moyenne et donc des catastrophes. Donc c'est pas ou l'un ou l'autre.
Non, mais je pense que effectivement, il faut faire les deux, mais la priorité, à mon sens, c'est d'essayer de ralentir ce réchauffement et d'essayer de. Ou alors, on accepte tous qu'on va contre le mur et puis qu'on attend que ça s'effondre et faudra reconstruire sur des cendres. Moi, c'est un peu ce qui me fait peur.
Et les autres risques, alors, qu'est-ce qu'on fait en Valais? Seulement 20% du parc immobilier est aux normes sismiques. On rase tout le reste et on reconstruit tout.
Ça y est, Annaliety veut raser le Valais.
Non, mais je pose la question parce que la fonte des glaciers, tout ça, on peut tout à fait le relier au réchauffement climatique, mais il y a toutes sortes d'autres risques naturels qui sont pas liés au réchauffement climatique. Si on veut, c'est la question du rapport au risque. Oui. On peut pas, enfin, l'idée quand même de dire la nature peut détruire, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'histoire naturelle et des hommes, et donc c'est pas quelque chose, on va jamais arriver au risque zéro.
Comme vous le disiez tout à l'heure, Anna, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui connaissent le risque et qui décident quand même d'aller habiter dans ces zones-là, ou qui décident quand même de reconstruire, et elles le font en âme et conscience, et voilà, au risque de se retrouver des assurances qui les suivent pas, etc. Là, on parle d'un risque quand même qui englobe toute l'humanité, et dont on ne prend pas la mesure de c'est ça, c'est là où
c'est
je
pas,
rejoins.
C'est pas vraiment le débat en plus, je veux dire, je trouve qu'on perd beaucoup de temps à débattre sur est-ce que c'est...
On perd jamais du temps à débattre.
Non mais est-ce que...
C'est le principe de cette émission.
Non mais je dis pas vous êtes formidable, c'est toujours passionnant. Non mais je trouve qu'il y a dans le débat public, il y a beaucoup de fois la question, est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ou non? Puis comme si, on sait que c'est un agenda politique là derrière, et c'est pas la question, enfin il y a des trucs qui sont pas dus, mais il y a des trucs qui sont dus. Et ça veut pas dire que si Blatton c'est pas dû au réchauffement climatique, que c'est pas un problème de manière globale, quoi. Et c'est ça que je trouve un peu fou, quoi.
Et après, il y a toujours un risque, c'est-à-dire comme vous l'avez dit Anna, on choisit aussi sciemment d'aller habiter dans des zones à risque, parce qu'il n'y a pas que le risque qui compte, on veut pas tous habiter dans l'endroit le moins risqué de la planète, qui serait un horrible bunker je sais pas où. On accepte des risques parce que c'est beau, c'est de là où on vient, etc. C'est ça finalement.
Non, mais je pense qu'il y a des vrais signaux d'alarme. Il y a des vrais signaux d'alarme aujourd'hui. Et comme le disait Robin tout à l'heure, je pense que c'est une fois, Blatton, voilà. On a une vraie image. Et moi, je crois vraiment que tout ce qui est lié au réchauffement climatique est en train de nous taper dessus, mais de plus en plus fort. Il va falloir qu'il y en ait deux, trois, quatre, pour que les gens finissent par se dire, là, peut-être qu'il faut qu'on regarde. Mais juste une chose, quand même. Aujourd'hui, les quatre plus grands pays pollueurs sur la planète, les quatre plus grands pays pollueurs, j'ai même pas besoin de les citer, comme ça au moins je prends pas de risque, je me ferai pas cartonner, mais ils font tellement 500 000 fois pire que le reste de la planète tous ensemble, hein. Et eux ils sont pas en train de se calmer du tout.
Mais est-ce que ça veut dire que le reste de la planète doit pas se calmer non plus?
Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est toujours une affaire de proportion. Alors, je veux bien qu'on aille bien trier les poubelles, qu'on fasse notre compost, qu'on fasse notre truc, qu'on fasse pas les clims. D'accord. Mais quand juste pas si loin que ça, autour, ça tape comme des brutes et ça consomme dans tous les sens et c'est en train de recreuser partout en Europe, en Europe pour ces fameux métaux précieux qui servent à faire qu'on va fournir les téléphones, les ordinateurs, les trucs comme ça. À un moment ou à un autre, faut quand même choisir un peu ce qui se passe.
Compris.
Et on atteint.
Tu parles de décroissance.
Ce sera le mot de la fin. Oui. Anna, très rapidement.
Je voulais juste dire, si on parle de risque, c'est ce que disait tout à l'heure, c'est que le risque.
François-Henri s'appelle votre collègue. Oui. Le monsieur. Oui.
J'ai pas dit le monsieur, j'ai dit monsieur.
Oui.
Bon, bref. Non, ce que je voulais dire, c'est que le risque, si on va au pire, le scénario catastrophe, c'est l'effondrement de solidarité.
Oui.
Après l'effondrement de la montagne. C'est-à-dire les gens de montagne qui s'accrochent à la montagne et les gens de la plaine qui disent vous voulez rester là-bas, vous vous accrochez à votre montagne, bon bah c'est vous qui payez et on ne sera plus solidaire de la reconstruction.
C'est le mot de la fin. Une brève, Robin Chassé.
Ouais, dans le canton de Vaud, la moitié des écoles ont saisi au moins une arme blanche cette année. Et la police vaudoise a dit ouais, on a saisi qu'une seule arme blanche parce que toutes les autres étaient couleur métal, alors on n'a pas saisi.
Oh. Là, d'un coup, tu redescends, là.
Sylvie n'est plus fan. Anna Lietti, on écoute votre chronique.
C'est un phénomène de mode qui dure depuis plusieurs années, mais qui suscite en moi une stupéfaction inusable. Il s'agit des ongles extra longs et hyper décorés. On parle donc de mains humaines, hein, qui ont bénéficié il y a quelques millions d'années de cet événement majeur dans l'histoire de l'évolution, qui est l'acquisition de la station debout, grâce à laquelle Homo erectus a pu employer ses mains libres à fabriquer des outils, à faire du feu, à développer sa dextérité et son intelligence, jusqu'à la création de la montre à grandes complications ou la tarte tatin. Pour dire, les mains, c'est pas comme les cheveux, qui à ce stade de l'histoire de notre espèce sont surtout là pour faire joli. Elles nous servent à chaque heure du jour pour nous habiller, pour travailler, pour faire à manger, pour soigner nos hortensias ou notre plant de cannabis. Et si on se coupe les ongles, ben c'est pour maintenir cette fonctionnalité des mains qui est précieuse. Mais voilà que des femmes, de plus en plus nombreuses, choisissent de porter des ongles kilométriques qui entravent, compliquent, voire rendent impossible l'usage de leurs mains pour certaines tâches. Stupeur et perplexité. Est-ce l'amorce d'un tournant anthropologique? Mais vers quoi? Le retour aux quatre pattes? Plus pragmatiquement, je n'arrête pas de me demander, mais comment est-ce qu'on peut s'infliger ça? Faute de véritable réponse, j'ai au moins identifié l'origine du phénomène. C'est le syndrome de Cendrillon. Vous savez, Cendrillon, dans la version hard, hein, celle des frères Grimm. Lorsque la méchante sœur glisse son pied dans le chausson d'or en espérant épouser le prince charmant, son orteil dépasse. Sa mère lui tend alors un couteau et dit « Coupe-le, quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin de marcher. » Le syndrome de Cendrillon s'observe surtout au niveau des pieds, bien sûr. Quand je porte en plein hiver des mules à talons de 12 cm, mon message c'est « J'ai un carrosse perso, je ne fais pas un pas. » Mais de la même manière, les griffes pailletées diamantées de la Vénus ongulaire disent « Je peux tenir une coupe de champagne, mais sûrement pas une serpillière. Et je ne touche à rien, le travail manuel, ça me donne la migraine. » Vous remarquerez que ce message n'est pas neuf. Il était déjà véhiculé par les mains parfaitement manucurées, mais en version sobre, de la bourgeoise BCBG. Mais que la bourgeoise BCBG ne s'est pas laissée entraîner vers la mode des griffes pailletées, diamantées. Pour tout dire, elle les trouve horriblement vulgaires. Et pour cause, ces extravagances ongulaires sont issues de ce que certains appellent l'esthétique ghetto, qui s'est développée dans les milieux du rap afro-américain. L'idée, c'est de reprendre les codes des classes privilégiées pour se les approprier, mais en mode outrageux, clinquant, provocateur, dans une débauche d'or et de faux diamants. Le mauvais goût comme arme d'émancipation, en somme. C'est une belle idée, pleine d'ironie et de provocation joyeuse. Même si avec les années, les stars d'Instagram se sont chargées de gentrifier la rebelle attitude des origines. Non, ce qui me chiffonne, outre l'autogaule fonctionnel dont j'ai parlé, c'est que cette mode nourrit un marché florissant qui repose sur une forme de tromperie. Parce que la vérité cachée, c'est que les griffes XXL, ça fiche les ongles en l'air. Et plus vos ongles sont abîmés, plus vous serez amené à retourner au bar à ongles pour cacher les dégâts. Et vous vous retrouverez piégé dans une forme d'addiction toxique pour votre corps et votre porte-monnaie. Bon, je ne veux donner de conseils à personne, mais à mon avis, il serait temps de questionner ce surinvestissement angulaire et de tourner la page. De prendre les choses en main, quoi. Bon, peut-être qu'en la circonstance, l'expression n'est pas très appropriée.
Merci, Anna Lietti.
Les beaux parleurs, 11h, midi et demi, sur RTS Première.
Il y a deux semaines, Emmanuel Macron avait un petit mouchoir usagé sur la table. Il trouve que ça fait chenille sur les images. Il le prend un peu avec un geste de prestidigitateur. Et alors, sur les réseaux sociaux, une rumeur complotiste. Il y avait un sachet de cocaïne qu'Emmanuel Macron a tenté de cacher. L'Élysée dément, annonce que c'est une fake news. Et puis, plus récemment, il y a cette baffe de Brigitte Macron à Emmanuel Macron dans le jet privé au moment où la porte est ouverte. Alors d'abord, l'Élysée dit non, c'est sur sûrement un montage de l'intelligence artificielle, une fake news totale. Puis l'Élysée avoue qu'en fait ce sont des vraies images, mais que c'était une chamaillerie et pas une baffe. Bref, il y a foule de rumeurs autour d'Emmanuel Macron et particulièrement aussi autour du couple Macron et de Brigitte Macron. Comment vous comprenez cette fascination mondiale et ces rumeurs autour de Brigitte Macron, Emmanuel Macron, François-Henri Benhamias?
Mon âge avancé me permet de citer Fernand Reynaud dans l'un de ses sketchs. Oui, on monte à si loin que ça. Je m'en fous. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais si on commence à passer du temps pour savoir si elle... D'abord, si on regarde les images, c'est pas une tarte. D'accord? Elle lui pousse le visage.
Mais attendez, c'est quoi la différence entre pousser le visage et mettre une tarte?
Une tarte, il y a un élan, tu vois, tu pars de la droite ou de la gauche et il y a un effet, puis la tête va vriller si la tarte est bien fou. Là, on pousse. Mais surtout, qu'est-ce qu'on perd du temps à parler de ça? Mais où va le monde? Je veux dire, si jamais on a besoin aujourd'hui de se coller sur des choses comme ça pour regarder un peu et pour juger, il faut passer à autre chose. Non, mais là, c'est catastrophique. Là, pour moi, c'est là où l'humanité se perd complètement sur ce qui compte et ce qui compte plus. Et quand ça fait en plus le tour complet de la planète pour savoir ce qui s'est passé, bah là c'est du foutage de gueule absolu quoi. C'est
mais alors secours. Pourquoi si vous étiez président, enfin quand vous serez président français, François-Henri Benhamias, est-ce qu'il faut réagir ou pas? Parce que si on dit finalement tout le monde s'en fiche, on pourrait imaginer que l'Élysée ne réagisse simplement pas. Mais à chaque fois ils réagissent.
Non mais
chaque
fois d'abord, entre l'information et la désinformation, ça va beaucoup trop loin. Et je pense qu'aujourd'hui, si on parle de manière plus globale au niveau de la désinformation, tout ce qui peut sortir à droite et à gauche pour faire du mal, pour nuire, pour faire que les gens se posent des questions à droite et à gauche, ça devient compliqué. Je vais passer sur un truc un peu plus sérieux parce que quelques camarades à moi qui sont dans le monde de la police et machin me disaient l'autre jour, avec l'intelligence artificielle, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est capable de le reproduire de manière tellement parfaite que demain, monsieur Jonas, vous pourriez avoir les flics qui débarquent à votre porte à 6h du matin parce que tout d'un coup, vous auriez été vu sur une vidéo pédophile. Et là, le temps se couvre parce que bonjour pour prouver que ce n'est pas vous. Aujourd'hui, je peux le dire parce que j'en profite puisque je suis écouté, j'ai 8 enquêtes dans 8 pays différents sur mon nom parce que mon identité a été volée. OK, que les gens se font passer pour moi pour essayer de vendre des montres. Il y a des prix défiant toute concurrence bien évidemment. Donc je ne vends pas de montres. Déjà c'est une chose est sûre. C'est pas moi.
Oui.
Mais ce que je veux dire par rapport à ça, cette notion du faux permanent qui est en train de monter et l'attention que les gens y prêtent, mais c'est une catastrophe. Et qu'à un moment si on pouvait passer à des choses plus sérieuses, ça serait bien.
Parce que Macron réagit en disant, je cite, c'est un truc de maboule. Sous-entendu, il y a que les débiles pour croire et en parler. Et en fait non, vu que le monde entier en a parlé. Ou alors Macron nous prend tous pour des débiles. Mais en tout cas, le monde entier a parlé de cette information. Anna Lietti.
Bienvenue aux ingénieurs du chaos. On est exactement dans ce que décrit Giuliano da Empoli quand il parle des ingénieurs du chaos. Je conseille à tout le monde la lecture de ses livres, le dernier en particulier, L'ère des prédateurs. Qu'est-ce qu'il dit da Empoli? Il dit il y a une armée de trolls dans le monde. Il y en a beaucoup au Kremlin, mais il y en a beaucoup aussi à Washington, à Pékin, etc., qui passent leur temps sur les réseaux, sur la toile, à attiser les conflits, à diffuser des fake news, à faire monter la température de la conflictivité. Et la conflictivité...
Oui, c'est peut-être juste.
Oui, bon.
Oui.
Et... Et le but, c'est quoi? C'est pas d'imposer une vérité plutôt qu'une autre, c'est de décrédibiliser toute idée de vérité, tout espoir d'avoir un jour une vérité, une justice, voilà, que les gens se disent, mais à quoi bon s'informer, à quoi bon essayer de distinguer le vrai du faux? C'est vraiment
Oui.
C'est le triomphe du chaos, et qui profite aux autocrates, et qui est un poison pour la démocratie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Élysée s'est laissé prendre dans cette spirale, parce que ils avaient mis en place une cellule de fact-checking pour démonter les rumeurs. Et voilà qu'une vraie vidéo arrive, ça les embarrasse et ils tombent dans le piège de dire c'est un faux.
Et donc c'est la fake news de Donald Trump.
Et donc la dénonciation du mensonge elle-même est décrédibilisée et c'est le triomphe du chaos. Et c'est triste, c'est terrible quoi.
Conflictualité. Oui. Conflictivity, c'est en anglais.
Conflictualité, voilà,
exact.
Je l'ai.
Comment on dit en français?
Sylvie Makela.
Mais oui, mais c'est effectivement, en même temps, ça peut paraître futile et en même temps, c'est très grave dans ce que ça dit de la qualité de l'information et où on peut trouver les bonnes informations. Moi, j'ai eu connaissance en lisant la presse que à Washington, on avait limité l'accès et les accréditations à la presse normale, c'est-à-dire que à la presse nationale et internationale. Et par contre, pour favoriser en fait des influenceurs, des masculinistes, des personnes plutôt à mouvance d'extrême droite, pour pouvoir couvrir l'information. Donc ce que ça dit, alors moi je suis pas sûre que ce soit juste pour flouer les esprits, mais je pense qu'il y a vraiment un projet politique de se dire qu'on a envie d'influencer la manière dont les gens voient la réalité, dont les gens voient les choses. Et c'est quand même un énorme lieu de divertissement, mais vraiment divertissement, de nous divertir, de nous éloigner des enjeux en nous bombardant de ces fake news, de ces choses sur les réseaux. La plupart des gens aujourd'hui se documentent, s'informent autour de ce qu'il y a sur les réseaux. Donc il y a une énorme responsabilité de la part des GAFAM aussi, de suivre ce jeu, de ne pas réglementer. Donc pour moi, c'est quand même préoccupant. C'est clair que, ok, le Macron, etc., ça n'a pas un impact direct, mais on est quand même en train de faire basculer le curseur de ce qui est acceptable, de ce qui peut se dire, de notre sens critique. Ouais. Et il y a personne qui semble être capable de réguler ça. En fait, on est dans le même questionnement que le climat, etc. À un moment donné, mais qui va pouvoir faire l'arbitre là-dedans, quoi?
Je pense qu'on est allé vraiment trop loin. Alors il y a l'Australie maintenant qui a interdit donc les réseaux sociaux aux gamins de moins de 16 ans. C'est une première étape. Moi je suis anti réseaux sociaux hein, quand même, faut le savoir. Je suis nulle part et je rejette ce qui se passe.
Mais vous êtes pas.
Alors Robin, pour le chèque, il faut virer
Robin,
250 000.
Mais tout ça
pour dire, c'est ce à quoi on assiste est une croissance de la débilisation de la population par rapport à tout ce qui peut sortir, ce qui est malheureux. J'espère qu'à un moment, parce que ça viendra pas des autorités, j'y crois pas du tout moi je crois qu'à un moment ça viendra des gens qui en ont ras-le-bol et qui pourront à un moment dire on va s'éloigner un peu de ce truc là une bonne fois pour toutes, parce que ça sert vraiment strictement à rien.
En préparant l'émission, vous savez, je me suis dit c'est le Far West, et comment on est sorti du Far West? C'est soit à un moment donné voilà, c'est la fin et on reconstruit sur les cendres, ou soit à un moment donné c'est quand même un État qui prend ses responsabilités. Autrement, c'est le Far West.
Ok.
Non, mais il y a
compris,
quand même. Il y a
très rapidement, vous aurez le mot de la fin.
Il y a quand même une responsabilité des acteurs du débat. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Parce que la dénonciation de complotisme, elle a été utilisée à tort et à travers ces derniers temps, y compris par des personnes politiques, pour dès qu'il y avait une idée ou une question qu'on n'aimait pas, qu'elle soit posée, ou une idée qui vous dérange, on accuse l'autre de complotisme. On se fait prendre dans la spirale de la post-vérité en faisant ça. C'est
intéressant. Très bien, ce sera le mot de la fin. Une brève, Robin Chessé.
Oui, dès le mois de juin, c'est-à-dire dès aujourd'hui, les CFF réutiliseront le terme « accident de personne » à la place de « événement lié à une cause externe ». Mais pour nous, ça ne changera rien, parce que quand on sera dans le train, on fera de toute façon « Oh !»
Les beaux parleurs.
France-Henri Benhamias, on écoute votre chronique, s'il vous plaît.
Alors normalement, on est censé prévoir ces chroniques quelques jours à l'avance, puisqu'on est censé donner le titre de la chronique. Et moi, j'ai annoncé surprise parce que je voulais faire quelque chose d'un tout petit peu particulier. Alors en effet, mardi cette semaine, je me suis marié.
Bravo. Ah oui.
Voilà. Alors c'est pas une chronique comme les autres parce que cette fois, c'est une déclaration. Alors oui, je me suis marié. Oui, moi, à plus de 60 ans, après 10 ans de relation. Moi qui avais juré la main sur le cœur et peut-être un peu sur la mauvaise foi que jamais, mais jamais, je ne me remarierai. Surtout pas une troisième fois. Et pourtant, me voilà marié, comme un ado amoureux qui croit que l'amour, cette fois, c'est pour de vrai. Mmh. Alors maintenant, je m'adresse à ma chère et tendre, parce que là, il faut que je lui dise. Alors, il m'a fallu du temps, il m'a fallu toi. Il m'a fallu ton rire qui désarme, ton calme qui apaise, ton regard qui voit tout. Ton amour sans mise en scène, sans promesse grandiloquente, mais toujours là, stable, solide, comme un port quand la mer devient mauvaise. Il m'a fallu ta tendresse, cette façon que tu as de rendre les choses simples, et belles, et vraies. J'ai longtemps cru que l'amour c'était d'une sorte d'élan fou, un feu d'artifice. J'ai appris qu'avec toi c'est aussi une lumière douce qui ne s'éteint jamais, un feu qui ne brûle pas, mais qui réchauffe. Même dans les jours gris, une maison, un refuge. Alors voilà. Oui, je me suis marié. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'en avais envie. Envie de te dire oui, devant les autres, comme je te dis oui chaque jour, dans les silences, dans les gestes minuscules, dans les regards du matin. Oui à la vie à deux, avec nos rires et nos fous rires, nos plus que rares altercations, mais surtout notre complicité synchrone et absolue. Oui à nous, imparfait mais vrai. Oui à l'amour, celui qu'on construit, qu'on entretient et qu'on choisit, tous les jours. Et si je le dis ici maintenant, c'est parce que l'amour mérite d'être dit. Et pourtant, j'ai beaucoup de problèmes avec ça de manière générale. Et même quand on croit qu'on a déjà tout vécu. Alors oui, j'avais dit jamais. Plus de mariage. Mais il faut croire que jamais est un mot qu'on dit quand on a encore beaucoup à apprendre. Parce que la vie se moque bien de nos certitudes. Et l'amour, lui, adore les détours. Princesse, je te prends dans mes bras tout à l'heure.
Oh, joli.
Oh, bravo. C'est pas la fin du monde, alors.
Oh là qu'est-ce là. Qu'il est chou, ce François.
Plus que ça, Jonas, plus que ça.
Sylvie est fan de tout le monde aujourd'hui. Alors, comment parler de la souffrance animale après ça? Non, donc, nouvelle règle que le Conseil fédéral a validée. À partir du mois de juillet, il y aura l'obligation de mettre sur les étiquettes les pratiques douloureuses infligées aux animaux liées aux produits que vous achetez. D'un autre côté, le Nutri-Score ne fonctionne vraiment pas dans notre pays. Tout le monde l'a retiré. Il y avait presque plus que Nestlé pour afficher le Nutri-Score en Suisse. Et ils viennent d'annoncer que sur les produits exclusivement destinés à la Suisse, ils ne se donneront même plus la peine d'imprimer ce fameux Nutri-Score. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre sur les étiquettes, Sylvie Makela?
Moi, je trouve très bien qu'on rajoute une information supplémentaire. Après, ce que je trouve un peu tendancieux, c'est de choisir l'une ou l'autre information. Pourquoi, un peu comme si on mettait l'accent sur l'émotionnel plutôt que ce qui est factuel, alors où l'obésité...
La souffrance animale, c'est factuel.
Oui, c'est factuel, sauf que ça va être très compliqué, je pense, de retracer l'origine animale sur un paquet de cookies ou sur des céréales ou sur un plat congelé qu'il faut réchauffer au micro-ondes. Donc il y a quand même un aspect très émotionnel là-dessus, alors que sur l'aspect factuel, donc le Nutri-Score. Là, c'est essentiel, surtout à l'heure où l'obésité prend des proportions inconsidérées, que les maladies cardiovasculaires sont aussi très présentes. Là, on a un instrument, certes, si les gens veulent bien le lire, mais on a un instrument qui permet quand même de parler de la nocivité des produits qu'on est en train de consommer. Mmh. Puis il faut aussi se dire que quand même, quand on parle d'agroalimentaire, il faut un petit peu la méfiance est de mise quand même. Il faut rappeler quand même les scandales autour du lait maternel en Afrique, en poudre, les scandales autour de la fausse eau, les pizzas qui sont frelatées. Quoi. Bref, il y a quand même beaucoup de choses où aujourd'hui on essaie de nous refourguer quand même de la malbouffe avec des conséquences incroyables. Et là, on est en train de dire que le peu d'informations, on revient sur la thématique de l'information, la transparence, le peu d'informations qu'on peut avoir à disposition, en tout cas pour celles qui veulent faciliter l'accès à cette information, on veut l'effacer, et c'est très bien qu'on parle de la souffrance animale, c'est très bien qu'on rajoute une information supplémentaire, mais pas au détriment d'une autre information.
Mais vous lisez les étiquettes, vous ?
Ben oui, je lis les étiquettes.
Vraiment ?
Oui, je lis vraiment les étiquettes.
C'est vous qui lisez les étiquettes.
Mais oui, mais pas.
Et avant de vous inscrire sur un site, vous lisez les conditions générales aussi.
Non, alors ça, c'est vrai que je ne le fais pas. Oui. Mais pourquoi les étiquettes? Parce qu'il y a, pour savoir d'où vient la provenance des aliments, pour savoir le type de conservateur qu'il y a, mais parce qu'aussi, je suis convaincue, en fait, que la nutrition, en fait, la prévention de la plupart des maladies se passe par la nutrition. Et donc, effectivement, je suis sensible à ça, donc je regarde les étiquettes. Il n'y a pas tout, mais oui, je regarde. Et je suis consciente qu'il y a plein de gens qui ne regardent pas les étiquettes, mais encore une fois, on n'est pas en train de dire que, parce que même si on me dit, j'ai pas la statistique, mais même si on me dit que 80% des personnes ne lisent pas les étiquettes, c'est pas une raison de priver les 20% qui les lisent des informations précieuses qu'il peut avoir sur ces étiquettes.
Anna Lietti, pardon. Vous lisez les étiquettes?
Je les lis, moi.
Mais non. Vous faites les courses sans s'en rire.
Mais oui, mais complètement.
Bien sûr que je fais mes courses.
Ah, c'est vous qui faites vos courses?
Ah oui, ça arrive, bien sûr. Oui.
Ça arrive.
Non.
C'est pas la même réponse, ça arrive. Ah, parfois. Ah oui, d'accord. Et vous lisez les étiquettes?
Le sucre,
ah oui,
bien sûr. Machin, tout. Il y a tellement d'informations importantes.
Attends, c'est Anna.
Anna.
Oh bon.
Qui lit les étiquettes?
Non, mais moi, je m'interroge sur le sens de votre question parce que vous faites un rapprochement, Jonas, entre ces deux, les étiquettes. Là,
une info qu'on ajoute, une info qu'on enlève.
Je me pose la question du sens de votre question. Vous voulez sous-entendre que on se préoccupe davantage de bien-être animal que de santé humaine. Ça serait
dans l'immédiat sur les étiquettes, oui, on peut dire ça.
Ça serait quoi le sens, l'idée qu'on en est, c'est le signe d'un masochisme d'époque, une espèce de
là vous allez
de
loin,
grande,
mais
de,
oui,
de d'inconscience suicidaire expiatoire de l'homme blanc, si cet héros carnivore.
Je sais pas.
On va y aller.
J'ai pas vu l'affreux Lobby Walk là-dedans, mais
je suis pas sûre que le rapprochement s'impose, disons. Mais
qu'est-ce que vous voulez comme info sur les étiquettes, Anna?
Alors bon, moi je mange très peu d'aliments transformés. J'achète des légumes, de la viande, des pâtes, du riz. Donc c'est vrai que je trouve que le Nutri-Score il est utile et je trouve que c'est bien qu'il existe pour les aliments transformés. Après, je trouve que je suis assez grande pour voir bien qu'un gruyère c'est plus gras que du serré, quoi. Ça, j'ai peut-être pas besoin de Nutri-Score pour ça. Et c'est vrai que cette histoire que ça, le Nutri-Score pénalise les produits naturels, c'est la raison pour laquelle non seulement l'agroalimentaire, mais les paysans en fait sont contre.
Oui, parce qu'ils détestent avoir un très mauvais Nutri-Score sur le beurre, par exemple, ou sur les œufs.
Le beurre, c'est clair que le beurre c'est le beurre, c'est pas non mais c'est vrai, je sais pas, moi je pense que c'est bien d'avoir une information, mais c'est vrai, le Nutri-Score je m'en sers très peu parce que simplement j'achète très peu de produits transformés et donc mais je trouve que c'est une bonne chose, oui, c'est bien.
Sylvie Macalla.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on est autour de la table des personnes privilégiées qui avons le loisir de prendre le temps d'étudier ce qu'on mange, etc., etc.
Vous nous présentez tous comme des millionnaires, mais c'est pas le cas. Mais...
Mais là, on est quand même en train de parler les produits transformés. Qui sont les premières personnes à les consommer? C'est plutôt des personnes de la classe populaire, des
personnes.
Attends,
c'est quand même moins cher d'acheter de la farine et de l'huile, de faire une pâte avec.
Oui, mais
que
là,
de,
je suis pas en train de parler de subjectivité. Je parle de réalité. La réalité, c'est que la malbouffe, elle est quand même destinée aux personnes qui sont déjà précarisées. Donc laissons le maximum de moyens pour faire en sorte c'est moins d'impact. Parce que là, évidemment, de se taper sur le dos et de se dire, ah bah c'est génial, on mange pas de produits transformés, bah oui, on mange pas de produits transformés parce qu'on est privilégié, quoi.
François Ribénamias, à quel point il faut simplifier les informations? Parce que le Nutri-Score, c'est ça, c'est une information simplifiée et donc forcément un peu faussée. Quand on simplifie, ben on simplifie un peu trop parfois. C'est ce que les agriculteurs reprochent au Nutri-Score. Sur la souffrance animale aussi, une souffrance animale n'est pas égale à une autre souffrance animale finalement.
Et alors attention, pour mesurer la souffrance animale chez les animaux qui sont dans l'eau, bonjour, parce que lui, il gueule pas le poisson. Lui, il est dans l'eau, il peut pas broncher quand on l'attrape. Oui. Mais quand je reviens là-dessus, moi qui ai vécu avec des problèmes de poids toute ma vie, là je suis plutôt dans la bonne phase. Parce que, je me mariais, il fallait que je sois belle. D'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est
l'ennemi numéro un aujourd'hui, c'est vraiment le sucre, hein, oui, dans l'alimentation. C'est le sucre, tout le monde le sait. Je pense que les lobbies alimentaires font pas le boulot correctement, parce que de rajouter maintenant, ah, on va mettre l'information. Ah oui, alors la violence animale. La violence, elle démarre où ? Au moment où l'animal, on le tue. Parce que si on tue un humain ou on tue un animal, il y a une forme de violence. Et la violence, elle existe depuis qu'on tue un animal dans la prairie ou dans le truc pour pouvoir se nourrir.
Mmh. Donc, mais on peut lui arracher les cuisses vivants ou le tuer en l'étourdissant, c'est pas pareil.
Okay. Alors, mais on découvre. Alors, le pire de cette chose-là, c'est qu'on va redécouvrir. C'est que moi, je savais pas qu'on pouvait arracher les cuisses vivantes des grenouilles. Mmh. Mais il me viendrait jamais à l'idée d'acheter des cuisses de grenouilles comme ça non plus. Donc,
couper les couilles des bœufs, par exemple. Il y a ça dans les articles de presse.
Sans anesthésie.
Sans anesthésie.
Couper les oreilles.
D'accord. Et alors, à ce moment-là, je pose une autre question. Je vais revenir à ce que tu disais tout à l'heure. C'est à quel moment la loi fait qu'un moment, ça pourrait juste être interdit, puis on arrête et on passe à autre chose. Si à chaque fois, il faut ouvrir la porte, tu te rends compte les débats que ça peut provoquer maintenant? Mais je savais pas que ça existait. Donc il faut qu'on regarde, il faut qu'on y retourne, il faut qu'on débatte. Non, non, mettez une loi, dire, voilà, demain c'est interdit. Si c'est interdit, c'est fini, on n'en parle plus. Et on passe à autre chose.
C'est pas très libéral, ça. Vous voulez pas laisser le choix au consommateur. Vous pensez pas qu'il faut laisser le choix au consommateur?
Alors, si y a un consommateur qui dit, moi, je veux être sûr que mon veau, on lui a coupé les trucs vivants et machin qu'il a souffert, faut me le présenter, faut qu'on lui parle. Faut qu'il s'allonge et qu'il nous parle de son enfance, aussi. D'accord?
Oui, mais dans les faits, et c'est la fameuse question de la libre circulation, il y a plein de ces pratiques douloureuses, animales, horribles, qui sont interdites en Suisse, mais il y a des produits qui sont produits comme ça à l'étranger, et on n'a pas le droit d'interdire leur importation, parce qu'on s'est accordé avec les pays, les autres pays importateurs, exportateurs, qu'on le ferait pas, c'est-à-dire qu'on laisserait le libre-échange.
À un moment, c'est insupportable. Si on a décidé qu'en Suisse, c'était comme ça, comme ça et comme ça, pourquoi on autorise des produits, des importations de produits qui ne respectent pas ces règles? Faut savoir ce qu'on veut quand même.
Ben voilà, c'est le sens de... Donc cette proposition, elle vient en réaction, en contre-projet indirect...
Du foie gras.
...à la demande d'interdiction d'importation de la fourrure et d'interdiction d'importation du foie gras. Mmh. Et l'idée, c'est de dire, ok, bon, si on parle de souffrance animale, eh bien parlons de toutes les souffrances animales, pourquoi nous limiter à celles de la fourrure et du foie gras? Et deux... Vous êtes grand, on vous informe, et c'est à vous de prendre vos responsabilités comme consommateur, de savoir si vous voulez acheter quelque chose où il a fallu passer par là pour l'obtenir. Voilà, c'est un
Mais
peu les deux...
Finalement, Sylvie Makela, plutôt que de dire souffrance animale, est-ce qu'on ferait pas mieux de dire ce produit a été importé et fabriqué selon des pratiques qui sont interdites en Suisse? Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait dire? En gros,
ça.
Ce produit-là, il vient, mais on pourrait pas le produire en Suisse parce que le peuple suisse a décidé d'interdire ses pratiques. C'est
mais
pas ça qu'il faudrait...
Mais très bonne proposition. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir le maximum d'informations possibles pour qu'on puisse faire un choix...
Sylvie, pour autant que l'information soit juste, hein, et pas
c'est l'information. On parle d'information juste. Alors, je pars du principe que l'information est correcte et transparente. C'est clair. Ça, c'est encore un autre débat.
Oui. Très bien.
Alors, juste et pas trop détaillé quand même.
Analyse-t-il le mot de la fin, encore une fois.
Ah oui.
Allez-y.
Alors, je dis information, mais pas trop détaillé, parce que si dans l'étiquette il y a ce porc que vous vous apprêtez à consommer a eu les couilles coupées à vif et les oreilles tranchées et les dents ciselées. Bon appétit. Moi, je suis pas sûr que ça ressemble à une pression. Ça ressemble déjà à de la pression.
Si c'est la vérité.
Non, mais une information spécifique. Souffrance animale, ça me suffit.
Vous voulez un terme un peu plus neutre et romantique?
Après, j'ai regardé la liste. Couper les oreilles, couper les couilles à vif.
Oui.
Et cisailler les dents.
Couper les couilles, c'était écrit couille.
Oui, enfin
les testicules.
Vous avez très bien compris. D'ailleurs, une brève.
Alors, c'est pas celle dont je suis le plus fier.
Ah, parce que les autres, vous étiez fiers.
Non, mais celle-là, c'est encore pire. Astronomie. Des scientifiques ont découvert dans notre système solaire une planète naine. Il paraît qu'elle est apparue en claquant des doigts et qu'elle a réglé les problèmes de relations perfides à brocoteurs dans le Périgord. Voilà. Sylvie... Pas ma meilleure, hein.
Oui, non. Sylvie Makela, on écoute votre chronique, s'il vous plaît.
Oh, 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 oh. C'est Star Wars, ça, non?
Ce matin, je suis rentrée dans le studio d'enregistrement comme une boxeuse monte sur un ring pour défendre mon titre. Quel titre? Celui d'entrepreneur social que Jonas utilise pour me présenter. Le même titre qui s'affiche sur l'écran quand je prends la parole. Certaines critiques voient une incohérence, voire même une supercherie dans cette appellation. Elles argumentent que mes tarifs sont trop chers pour être sociaux. Elles voient également d'un mauvais œil que je propose des rendements aux personnes qui souhaitent investir dans mon projet social. Argent, investissement, rendement seraient des termes incompatibles avec la volonté d'avoir un impact social positif sur son environnement. Non seulement je pense que ces termes peuvent être compatibles, mais je revendique avoir une activité à impact positif. Valoriser toutes les beautés, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la texture de cheveux, quelle que soit leur particularité. En faisant en sorte que toutes les textures de cheveux bénéficient d'une expertise adaptée pour respecter leur nature grâce à la formation, de produits naturels adaptés et des lieux adaptés grâce à des salons de coiffure spécialisés. Tout en utilisant une dynamique commerciale. Pour me faire comprendre, revenons à l'essence de l'entrepreneur. L'entrepreneur est un ou une leader animé d'une mission qui a la capacité, les qualités, l'endurance de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour arriver à ses fins. Pour l'exercice, classons les leaders en 4 catégories. Les leaders qui ont un impact positif, les leaders qui ont un impact négatif. Souvent, c'est l'histoire qui distingue ces deux leaders. Ensuite, divisons ces deux types en 2 catégories. Les leaders qui transforment leur mission en mouvements sociaux ou politiques, ce sont les Nelson Mandela, les Greta Thunberg ou Hitler. Les leaders qui transforment leur mission en modèle d'affaires, ce sont les entrepreneurs, Steve Jobs, Oprah Winfrey ou Sophia Demeyer en Suisse. Personnellement, je suis fascinée par les leaders visionnaires, par leur capacité de penser l'inimaginable, de faire l'impossible et de gagner la confiance d'autres personnes pour qu'elles s'engagent à leur côté et investissent dans leur folie. Christophe Colomb, Patrice Lumumba, Elon Musk. Mon objectif est de maîtriser parfaitement les règles du jeu de l'économie capitaliste, de m'inspirer des meilleurs joueurs et des meilleures joueuses, d'utiliser toute cette expérience pour arriver à l'impact désiré. C'est utiliser les règles du modèle dominant au service d'un changement social radical. Comme dans les mangas où l'héroïne transforme le projectile de feu dont elle est la cible pour le retourner contre son adversaire. Là où certains estiment que je me compromets, que je me suis laissé corrompre, que je ne mérite pas leur soutien, moi j'estime négocier avec un maximum des parties prenantes pour arriver plus rapidement et efficacement à mon idéal. J'estime faire les compromis nécessaires pour qu'une majorité ait le sentiment d'être gagnant dans la transformation. Vais-je y parvenir ? L'avenir nous le dira. Quoi qu'il advienne, retenez que je tente l'approche de l'infiltration. Au beau parleur, on m'a choisi le titre « Entrepreneur social ». Alors aujourd'hui, je l'ai défendu. La cloche sonne. Et l'arbitre me lève le bras en signe de victoire. Je conserve le titre.
Bravo Sylvie Makela.
Sylvie forever.
On passe aux perles des beaux parleurs. Vous nous écrivez toute la semaine les beaux parleurs en un mot @rts.ch. C'est notamment ce qu'a fait Tristan lorsqu'il a entendu cette petite perle dans l'émission Côté Jardin ce matin.
Il a juste dit qu'il l'avait déplacé puis qu'en gros le camélia avait pas survie.
Voilà, c'est mignon. Christine qui nous écrit également les beaux parleurs @rts.ch. Lauriane Gilieron parle de ses soirées mondaines.
Je voulais pas être dans les soirées mondaines toute la journée. J'avais déjà connu ça en tant que Miss Suisse.
Les soirées mondaines toute la journée. Bon, c'est vrai, hein, c'est un mode de vie aussi.
Il y a les afters.
Oui. Philippa qui nous écrit également les beaux parleurs @rts.ch. Elle a entendu cette horrible perle dans l'émission Forum.
On va parler du Proche-Orient, la nouvelle fondation humanitaire de Gaza.
Et puis Lorénie, les beaux parleurs @rts.ch, une perle qui vient de l'émission CQFD.
C'est lourd l'obésité, c'est vraiment très difficile à vivre.
Voilà. C'est lourd l'obésité. Petite récolte cette semaine, je vous demande de choisir quelle est la perle des beaux parleurs selon vous, François-Henri.
Bah, c'est lourd l'obésité.
Oui.
Vive le sucre.
Oui. Anna Lietti.
Bon, bah, la fosse de Gaza s'impose, hein. Voilà, on n'avait pas parlé de Gaza.
Oui, c'est vrai. Sylvie, il va falloir trancher.
Alors, je suis avec Anna.
Une perle engagée.
Voilà.
Un acte manqué horrible, exactement, mais révélateur. Philippa gagne donc ses cadeaux RTS qu'on lui envoie par la poste. Et on compte sur vos perles, les beaux parleurs en un mot, @rts.ch. Un point sur la route.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute Martigny-Vevey, c'est l'autoroute A9. Un accident s'est produit et provoque un bouchon entre B et Saint-Trifon en direction de Vevey. Sur l'axe Chiasso-Lucerne, des colonnes s'étendent sur 6 km entre Quinto et l'entrée sud du tunnel du Gothard. C'est le retour des vacances, ce qui représente une heure d'attente en direction de Lucerne. Malgré une intense circulation, les axes du Simplon ou du Grand Saint-Bernard sont recommandés aujourd'hui pour rentrer à la maison depuis le sud des Alpes. Concernant les services de ferroutage, des attentes d'une demi-heure sont annoncées à la gare de chargement de Goppenstein sur la ligne du Lötschberg, ainsi qu'à Oberwald sur celle de la Fourca. Dans un instant, nous parlons de macroéconomie. Vous comprenez quelque chose, vous, au taux négatif, la BNS, etc., François-Henri Benamias?
Je ne vis que par ça.
C'est quand même votre métier, non, d'anticiper les risques macroéconomiques.
Mais non, il vend des montres.
Robin, monte dans ta chambre.
Arrêtez avec ça, maintenant.
Va dans ta chambre.
Arrêtez avec ça. Dans les taux négatifs, par exemple. C'est bien ou c'est pas bien?
Moi, je trouve ça bien.
Ah, vous nous expliquerez ça après. Anna Lietti. Vous comprenez quelque chose, vous?
Au taux négatif?
Oui, la BNS, non, les taux, l'inflation.
J'avoue, et ça m'énerve beaucoup, parce que je me sens vulnérable, parce que je comprends, j'ai de la peine à comprendre, et je n'aime pas du tout ça. Mais c'est vrai que je ne suis pas prête à investir des masses de temps et d'énergie pour essayer de me faire une...
Est-ce que vous êtes d'accord d'investir la prochaine demi-heure pour essayer de comprendre?
Sûrement.
Oui, c'est ce que notre invité fera. Sylvie Makela, vous, les taux négatifs?
Je suis un peu comme Anna, je comprends pas tous les enjeux, oui. Mais je suis en chemin, je suis en train d'apprendre toutes les règles du capitalisme.
Et bien justement, dans un instant, nous recevons notre invité Michel Santi, économiste franco-suisse qui conseille les banques centrales. Donc lui, a priori, il maîtrise quand même le sujet.
Okay, oui.
Il viendra nous expliquer ça simplement, je l'espère, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.
L'heure avec RTS Première.
Les beaux parleurs reviennent dans un instant sur RTS Première et sur RTS 1. Tout de suite les infos, il est midi.